Madame de Lafayette. Du temps de Madame de Sévigné, à côté d'elle, et dans son intimité la plus chère, il y eut une femme dont l'histoire se trouve presque confondue avec celle de son aimable amie. C'est la même que Boileau désignait pour « la femme de France qui avait le plus d'esprit et qui écrivait le mieux ». Cette personne n'écrivit pourtant qu'assez peu, à son loisir, par amusement et avec une sorte de négligence qui n'avait rien du métier. Elle haïssait surtout d'écrire des lettres, de sorte qu'on n'en a d'elle qu'un très petit nombre et de courtes. C'est dans celle de Madame de Sévigné plutôt que dans les siennes qu'on la peut connaître. Mais elle eut en son temps un rôle à part, sérieux et délicat, solide et charmant. Un rôle en effet considérable et dans son genre au niveau des premiers. Un fond de tendresse d'âme et d'imagination romanesque, elle joignait une exactitude naturelle et, comme le disait sa spirituelle amie, une divine raison qui ne lui fit jamais faute. Elle lut dans ses écrits comme dans sa vie, et c'est un des modèles à étudier dans ce siècle où ils présentent tous un si juste mélange. On a récemment cherché, en réhabilitant l'hôtel de Rambouillet, à en montrer l'héritière accomplie et triomphante dans la personne de Madame de Maintenon. Un mot de secret trancherait plutôt en faveur de Madame de Lafayette pour cette filiation directe où tout le précieux avait disparu. Après un portrait assez étendu de Madame de Rambouillet, il ajoute incontinent « Madame de Lafayette avait beaucoup appris d'elle, mais Madame de Lafayette avait l'esprit plus solide, etc. » Cette héritière perfectionnée de Madame de Rambouillet, cette amie de Madame de Sévigné toujours, de Madame de Maintenon longtemps, a son rang et sa date assurée en notre littérature en ce qu'elle avait réformé le roman, et qu'une part de cette divine raison qui était en elle, elle l'appliqua à ménager et à fixer un genre tendre où les excès avaient été grands et auquel elle n'eut qu'à toucher pour lui faire trouver grâce auprès du goût sérieux qui semblait disposé à l'abolir. Dans ce genre secondaire où la délicatesse et un certain intérêt suffisent, mais où nul génie, s'il s'en rencontre, n'en est de trop, que l'art poétique ne mentionne pas, que Prévost, Le Sage et Jean-Jacques consacreront, et qui, du temps de Madame de Lafayette, confinait, du moins dans ses parties élevées, aux parties attendrissantes de la Bérénice ou même de l'Iphigénie, Madame de Lafayette a fait exactement ce qu'en des genres plus estimés et plus graves, ses contemporains illustres s'étaient à l'envi proposés. Lastrée, en implantant, à vrai dire, le roman en France, avait bientôt servi de souche à ses interminables rejetons, Cyrus, Cléopâtre, Polexandre et Clélie. Boileau y coupa court par ses railleries, non moins qu'à cette lignée de poèmes épiques, le Moïse sauvé, le Saint-Louis, la Pucelle. Madame de Lafayette, sans paraître raillée, et comme venant à la suite et sous le couvert de ses devanciers, que Segret et Huet distinguaient mal d'elle et enveloppaient des mêmes louanges, leur porta coup plus que personne par la princesse de Clèves. Et ce qu'elle fit, bien certainement, elle s'en rendit compte et elle le voulait faire. Elle avait coutume de dire qu'une période retranchée d'un ouvrage valait un louis d'or et un mot 20 sous. Cette parole a toute valeur dans sa bouche, si l'on songe au roman 10 volumes dont il fallait avant tout sortir. Proportion, sobriété, décence, moyens simples et de cœur, substitués aux grandes catastrophes et aux grandes phrases, tels sont les traits de la réforme ou, pour parler moins ambitieusement, de la retouche qu'elle fit du roman. Elle se montre bien du pur siècle de Louis XIV en cela. La liaison si longue et si inviolable qu'eut Madame de Lafayette avec M. de La Rochefoucauld fait ressembler sa vie elle-même à un roman sage, roman toutefois plus hors de règle que la vie de Madame de Sévigné, qui n'aime que sa fille, moins calculée et concertée que celle de Madame de Maintenon, qui ne vise qu'au sacrement avec le roi. On aime à y voir un cœur tendre, s'alliant avec une raison amère et désabusée qui l'adoucit, une passion tardive mais fidèle entre deux âmes sérieuses, où la plus sensible corrige la misanthropie de l'autre. de la délicatesse, du sentiment, de la consolation réciproque, de la douceur, plutôt que de l'illusion et de la flamme. Madame de Clèves, en un mot, maladive et légèrement attristée, à côté de M. de Nemours, vieilli et auteur des Maximes. Telle est la vie de Madame de La Fayette et le rapport exact de sa personne à son roman. Ce peu d'illusion qu'on remarque en elle, cette raison mélancolique qui fait le fond de sa vie, a passé un peu dans l'idéal de son roman même, et aussi, ce me semble, dans tous ses autres romans en quelque sorte émanés d'elle, et qui sont sa postérité, dans Eugène de Rotelin, Mademoiselle de Clermont, Édouard. Quelle que soit la tendresse qui respire en ces créatures heureuses, la raison y est, l'expérience humaine y souffle par quelques coins et attiédit la passion. À côté de l'âme aimante qui déjà s'abandonne, il y a aussitôt quelque chose qui avertit et qui retient. Monsieur de La Rochefoucauld, au fond, est toujours là. Si Madame de La Fayette réforma le roman en France, le roman chevaleresque et sentimental, et lui imprima cette nuance particulière qui concilie jusqu'à un certain point l'idéal avec l'observation, on peut dire aussi qu'elle fonda la première un exemple tout à fait illustre de ces attachements durables, décents, légitimes et consacrés dans leur constance. Note. Exemplum cana simus uterque coma, avait dit l'élégiaque antique. Légitimes et consacrés dans leur constance, de tous les jours, de toutes les minutes, pendant des années jusqu'à la mort. Qui tenaient aux mœurs de l'ancienne société, qui se sont éteints à peu près avec elle, mais qui ne pouvaient naître qu'après cette société établie et perfectionnée, et elle ne le fut que vers ce temps-là. La princesse de Clèves et son attachement avec M. de La Rochefoucauld, ce sont deux titres presque égaux de Madame de La Fayette, à une renommée touchante et sérieuse. Ce sont deux endroits qui marquent la littérature et la société de Louis XIV. J'aurais laissé pourtant le plaisir et la fantaisie de recomposer cette existence, bien simple d'événements, au lecteur de Madame de Sévigné, si un petit document inédit, mais très intime, ne m'avait engagé à mettre la bordure pour l'encadrer. Le père de Madame de La Fayette, maréchal de camp et gouverneur du Havre, avait, dit-on, du mérite et soigna fort l'éducation de sa fille. Sa mère, née de Péna, était de Provence et comptait quelques troubadours lauréats parmi ses aïeux. Mademoiselle Marie-Madeleine Pioche de Lavergne eut de bonne heure plus de lecture et d'études que bien des personnes, même spirituelles, de la génération précédente n'en avaient eu dans leur jeunesse. Madame de Choisy, par exemple, avait prodigieusement d'esprit naturel, en conversation ou par lettres, mais pas même d'orthographe. Madame de Sévigné et Madame de La Fayette, plus jeunes de 6 ou 7 ans que son amie, ajoutèrent donc à un fond excellent une culture parfaite. On a pour témoignage direct de cette éducation les transports de ménage qui, d'ordinaire, comme on sait, tombaient amoureux de ces belles élèves. Il célébra, sous toutes les formes de vers latins, la beauté, les grâces, l'élégance du bien-dire et du bien-écrire de Madame de La Fayette ou de Mademoiselle de Lavergne, la Verna, comme il disait. Note. La Verna en latin signifie la déesse des voleurs. Cela lui fit faire toutes sortes de plaisanteries galantes. Il put crier « au voleur !» comme Mascari. « Omine felici nomen praezaga dedere, fata tibi, furtis pulera laverna praest, tu veres omnes conctis formosa puelis, tu conquis sensus suripis una viris. » Il adresse aussi des vers à Madame de Sévigné, à Mademoiselle de Scudéry, à Madame Scarron. Mais c'est bien Madame de La Fayette qui reste décidément sa beauté en titre. La jolie édition elzévirienne de ses poésies, 1663, offre ce nom à chaque page. Dizains, ballades, églogues, élégies lui sont coup sur coup adressés. J'y cherche quelque chose qui ne soit pas trop fade et je m'arrête à ce madrigal qui peut-être ne me paraît un peu plus senti que parce qu'il est en italien. Ivan fili tu chiedi sulla gamuente d'urcra l'ardore. Qui tuo bel guardo mi desto nel core, Quilo potrebe dire, incerta offili, et l'ora del morire. Plus tard, il lui présenta son ami le docte Huet, qui devint aussi pour elle un conseiller littéraire. Ce Grec qui, avec Madame de Sévigné, suffit à faire connaître Madame de Lafayette, nous dit « 3 mois après que Madame de Lafayette eut commencé d'apprendre le latin, elle en savait déjà plus que M. Ménage et que le père Rapin, ses maîtres. En la faisant expliquer, ils eurent dispute ensemble, touchant l'explication d'un passage, et, ni l'un ni l'autre ne vouloit se rendre au sentiment de son compagnon. Madame de Lafayette leur dit « Vous n'y entendez rien, ni l'un ni l'autre. » En effet, elle leur dit la véritable explication de ce passage. Ils tombèrent d'accord qu'elle avait raison. C'était un poète qu'elle expliquait, car elle n'aimait pas la prose, et elle n'a pas lu Cicéron. Mais comme elle se plaisait fort à la poésie, elle lisait particulièrement Virgile et Horace. Et comme elle avait l'esprit poétique, et qu'elle savait tout ce qui convenait à cet art, elle pénétrait sans peine le sens de ses auteurs. Un peu plus loin, il revient sur les mérites de M. Ménage. Où trouvera-t-on des poètes comme M. Ménage, qui fassent de bons vers latins, de bons vers grecs et de bons vers italiens? C'était un grand personnage, quoique ses envieux en aient voulu dire. Il ne savait pourtant pas toutes les finesses de la poésie, mais Madame de Lafayette les entendait bien. La personne qui préférait à tout et sentait ainsi les poètes était à la fois celle-là même qui se montrait vraie par excellence. Comme M. de La Rochefoucauld plus tard le lui dit, employant pour la première fois cette expression qui est restée. Esprit poétique, esprit vrai. Son mérite comme son charme est dans cette alliance. Avec cela, Madame de Lafayette avait grand soin. Ce Grès nous en avertit encore, de ne faire rien paraître de sa science, ni de son latin, pour ne pas choquer les autres femmes. Ménage nous apprend qu'elle répondit un jour à M. Huygens, qui lui demandait ce que c'était qu'un iambe, que c'était le contraire d'un trochet. Mais il fallait M. Huygens et sa question, croyez-le bien, pour lui faire prendre ainsi la parole sur le trochet, et sur l'iambe. Note. Talaimant des Réaux, ce rapporteur ordinaire des mauvaises paroles, en attribue une à Mademoiselle de Lavergne sur son maître Ménage. Cet importun Ménage va venir tantôt. Il la rapporte au reste à bonne fin, et pour montrer que le pédant galant n'était pas du dernier bien avec ses belles élèves. On n'avait pas besoin de ce témoignage pour conclure que Madame de Lafayette ne se faisait aucune illusion sur les défauts du pauvre Ménage. Et je crains même qu'elle n'ait songé à lui, entre autres, et à toutes ses platitudes, le jour où elle dit qu'il était rare de trouver de la probité parmi les savants. Elle avait perdu son père à 15 ans. Sa mère, bonne personne, nous dit Retz, mais assez vaine et fort empressée, s'était remariée peu après au chevalier Renaud de Sévigné, si mêlé aux intrigues de la Fronde, et qui se montra des plus actifs à faire sauver le cardinal du château de Nantes. On lit dans les mémoires du cardinal, à propos de cette prison de Nantes, 1653, et des visites divertissantes qu'il y recevait, Madame de Lavergne, qui avait épousé en seconde noce M. le chevalier de Sévigné, et qui demeurait en Anjou avec son mari, m'y vint voir et y amena Mademoiselle de Lavergne avec sa fille, qui est présentement Madame de Lafayette. Elle était fort jolie et fort aimable, et elle avait de plus beaucoup d'air de Madame de Lestiguère. Elle me plut beaucoup, et la vérité est que je ne lui plus guère, soit qu'elle n'eût pas d'inclination pour moi, soit que la défiance que sa mère et son beau-père lui avaient donnée dès Paris même, avec application, de mes inconstances et de mes différentes amours, la mit en garde contre moi. Je me consolais de sa cruauté avec la facilité qui m'était assez naturelle. Mademoiselle de Lavergne, âgée de 20 ans, n'eut besoin que de sa raison pour tenir peu de compte aux prisonniers entreprenants de ce caprice désœuvré et banal, si vite consolé. Mariée en 1655 au comte de Lafayette, ce qu'il y eut probablement de plus remarquable et de plus d'accord avec l'imagination dans ce mariage, ce fut qu'elle devint ainsi la belle-sœur de la mère Angélique de La Fayette, supérieure du couvent de Chaillot, autrefois fille d'honneur d'Anne d'Autriche, et dont les parfaites amours avec Louis XIII composent un roman chaste et simple, tout semblable à ce que représente Madame de Clèves. Son mari, après lui avoir donné le nom qu'elle allait illustrer, et qu'une si tendre lueur décorait déjà, s'efface et disparaît de sa vie, pour ainsi dire. On n'apprend plus rien de lui qui le distingue. Note. Il y a telle femme qui anéantit ou qui enterre son mari au point qu'il n'en ait fait dans le monde aucune mention. Vit-il encore? Ne vit-il plus? On en doute. La Bruyère des femmes. Elle en eut deux fils qu'elle aimait beaucoup, l'un militaire dont l'établissement l'avait fort occupée et qui mourut peu de temps après elle, et un autre, l'abbé de La Fayette, pourvu de bonnes abbayes et dont on sait surtout qu'il prêtait négligemment les manuscrits de sa mère et les perdait. Madame de La Fayette fut introduite jeune à l'hôtel de Rambouillet, et elle y apprit beaucoup de la marquise. M. Roderer, qui a intérêt à ce qu'aucune des plaisanteries de Molière n'atteigne l'hôtel de Rambouillet, le fait se dépeupler et finir un peu plus tôt qu'il ne convient. Madame de La Fayette eut le temps d'y aller dès avant son mariage et d'y profiter aussi bien que Madame de Sévigné. M. Auger, dans la notice d'ailleurs exacte et intéressante, mais sèche de ton, qu'il a donnée sur Madame de La Fayette, dit à ce propos. Introduite de bonne heure dans la société de l'hôtel de Rambouillet, la justesse et la solidité naturelle de son esprit n'auraient peut-être pas résisté à la contagion du mauvais goût dont cet hôtel était le centre, si la lecture des poètes latins ne lui eût offert un préservatif, etc., etc. Le préservatif eût bien dû agir sur ménage tout le premier. Cela est de plus injuste pour l'hôtel Rambouillet, et M. Roderer a complètement raison contre ses manières de dire. Mais il s'abuse lui-même assurément quand il fait de cet hôtel le berceau légitime du bon goût, quand il nous montre Mademoiselle de Scudéry comme y étant plutôt tolérée qu'exaltée et admirée. Il oublie que Voiture, tant qu'il vécut, tint le dé en ce monde-là. Or, on sait, en fait d'esprit, mais aussi en fait de goût, ce qu'était Voiture. Quant à Mademoiselle de Scudéry, il suffit de lire Segret, Huet et autres pour voir quel cas on faisait de cette incomparable fille et de l'illustre Bassa et du grand Cyrus et de ces vers si naturels, si tendres, que dénigraient des préaux, mais où ils ne sauraient mordre. Et ce que Segret et Huet admiraient en de pareils termes devait n'être pas jugé plus sévèrement dans un monde dont ils étaient comme les derniers oracles. Madame de La Fayette, qui avait l'esprit solide et fin, s'en tira à la manière de Madame de Sévigné, en n'en prenant que le meilleur. Par son âge, elle appartenait tout à fait à la jeune cour, et même avec moins de solidité dans l'esprit, elle n'aurait pas manqué d'en posséder encore les plus justes élégances. Dès les premiers temps de son mariage, elle avait eu l'occasion de voir fréquemment au couvent de Chaillot la jeune princesse d'Angleterre, près de la reine Henriette, qui, alors en exil, s'y était retirée. Quand la jeune princesse fut devenue madame et l'ornement le plus animé de la cour, Madame de La Fayette, bien que de 10 ans son aînée, garda l'ancienne familiarité avec elle, eut toujours ses entrées particulières et put passer pour sa favorite. Dans l'histoire charmante qu'elle a tracée des années brillantes de cette princesse, parlant d'elle-même à la troisième personne, elle se juge ainsi. Mademoiselle de la Trémouille et Madame de La Fayette étaient de ce nombre, du nombre des personnes qui voyaient souvent Madame. La première lui plaisait par sa bonté et par une certaine ingénuité à conter tout ce qu'elle avait dans le cœur, qui ressentait la simplicité des premiers siècles. L'autre lui avait été agréable par son bonheur, car, bien qu'on lui trouvât du mérite, c'était une sorte de mérite si sérieux en apparence qu'il ne semblait pas qu'il dût plaire à une princesse aussi jeune que Madame. À l'âge d'environ 30 ans, Madame de La Fayette se trouvait donc au centre de cette politesse et de cette galanterie des plus florissantes années de Louis XIV. Elle était de toutes les parties de madame à Fontainebleau ou à Saint-Cloud, spectatrice plutôt qu'agissante, n'ayant aucune part, comme elle nous dit, à sa confidence sur de certaines affaires, mais quand elles étaient passées un peu ébruitées, les entendant de sa bouche, les écrivant pour lui complaire, « Vous écrivez bien, lui disait madame, écrivez, je vous fournirai de bons mémoires. » C'était un ouvrage assez difficile, avoue madame de Lafayette, que de tourner la vérité en de certains endroits d'une manière qui la fit connaître et qui ne fut pas néanmoins offensante ni désagréable à la princesse. Un de ces endroits, entre autres, qui aiguisait toute la délicatesse de madame de Lafayette et qui excitait le badinage de madame pour la peine que l'aimable écrivain s'y donnait, devait être, j'imagine, celui-ci. Elle, madame, se lia avec la comtesse de Soissons et ne pensa plus qu'à plaire au roi comme belle-sœur. Je crois qu'elle lui plut d'une autre manière. Je crois aussi qu'elle pensa qu'il ne lui plaisait que comme un beau-frère, quoiqu'il lui plût peut-être davantage. Mais enfin, comme ils étaient tous deux infiniment aimables et tous deux nés avec des dispositions galantes, qu'ils se voyaient tous les jours au milieu des plaisirs et des divertissements, il parut aux yeux de tout le monde qu'ils avaient l'un pour l'autre cet agrément qui précède d'ordinaire les grandes passions. Madame mourut dans les bras de madame de Lafayette, qui ne la quitta pas à ses derniers moments. Le récit qu'elle a fait de cette mort égale les beaux récits qu'on a des morts les plus touchantes. Il s'y trouve en chemin de ces mots simples et qui éclairent toute une scène. Guillemet. Je montai chez elle. Elle me dit qu'elle était chagrine, et la mauvaise humeur dont elle parlait aurait fait les belles heures des autres femmes, tant elle avait de douceur naturelle et tant elle était peu capable d'aigreur et de colère. Après le dîner, elle se coucha sur des carreaux. Elle m'avait fait mettre auprès d'elle, en sorte que sa tête était quasi sur moi. Pendant son sommeil, elle changea si considérablement qu'après l'avoir longtemps regardée, j'en fus surprise, et je pensai qu'il fallait que son esprit contribuât fort à parer son visage. J'avais tort néanmoins de faire cette réflexion, car je l'avais vue dormir plusieurs fois, et je ne l'avais pas vue moins aimable. Et plus loin, monsieur était devant son lit, elle l'embrassa, et lui dit avec une douceur et un air capable d'attendrir les cœurs les plus barbares, « Hélas, monsieur, vous ne m'aimez plus, il y a longtemps, mais cela est injuste, je ne vous ai jamais manqué. » Monsieur parut fort touché, et tout ce qui était dans la chambre l'était tellement qu'on n'entendait plus que le bruit que font des personnes qui pleurent. Lorsque le roi fut sorti de la chambre, j'étais auprès de son lit. Elle me dit, « Madame de Lafayette, mon nez s'est déjà retiré. » Je ne lui répondis qu'avec des larmes. Cependant, elle diminuait toujours. Le 30 juin 1673, madame de Lafayette écrivait à madame de Sévigné. « Il y a aujourd'hui 3 ans que je vis mourir, madame. Je relus hier plusieurs de ses lettres. Je suis toute pleine d'elles. » Fin des guillemets. Au milieu de ce monde galant et brillant, durant 10 années, madame de Lafayette, jeune encore, avec de la noblesse et de l'agrément de visage, sinon de la beauté, n'était-elle donc qu'observatrice et attentive, sans intérêt actif de cœur, autre que son attachement pour madame, sans choix singulier et secret? Vers l'année 1665, comme je conjecture, et comme je l'expliquerai plus bas, elle avait choisi, hors de ce tourbillon, pour ami de cœur, M. de La Rochefoucauld, âgé déjà de 52 ans. Note. Petitot, dans sa notice érudite sur Madame de Lafayette, collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, seconde série, tome 64, a fait commencer l'étroite liaison 10 ans plus tôt, à ce qu'il me semble. Reprise. Elle écrivit de bonne heure, par goût, mais avec sobriété toujours. C'était le temps des portraits. Madame de Lafayette, vers 1659, en fit un de Madame de Sévigné, qui est censé écrit par un inconnu. Il vaut mieux que moi, disait celle-ci en le retrouvant dans de vieilles paperasses de Madame de la Trémouille, en 1675, mais ceux qui m'eussent aimé, il y a 16 ans, l'auraient pu trouver ressemblant. Fin des guillemets. C'est toujours sous ses traits jeunes et à jamais fixés par son ami que Madame de Sévigné nous apparaît immortelle. Quand Madame, engageant Madame de Lafayette à se mettre à l'œuvre, lui disait « Vous écrivez bien », elle avait lu sans doute « La princesse de Montpensier », première petite nouvelle de notre auteur qui fut imprimée dès 1660 ou 1662. Note, le dictionnaire de Moréry dit 1662 et Kérard 1660. Ce qu'il y a de certain, c'est que la première édition publique, avec privilège du roi, est de 1662, sans aucun nom d'auteur. Reprise. Comme élégance et vivacité de récit, cela se détachait des autres nouvelles et historiettes du moment, et annonçait un esprit de justesse et de réforme. L'imagination de Madame de Lafayette, en composant, se reportait volontiers à l'époque brillante et polie des Valois, au règne de Charles IX ou de Henri II, qu'elle idéalisait un peu et qu'elle embellissait dans le sens où les gracieux et discrets récits de la reine Marguerite nous les font entrevoir. La princesse de Montpensier, la princesse de Clèves, la comtesse de Tende, ne sortent pas de ces règnes, dont les vices et les crimes ont trop éclipsé peut-être à nos yeux la spirituelle culture. La cour de Madame, pour l'esprit, pour les intrigues, pour les vices aussi, n'était pas sans rapport avec celle des Valois. Et l'histoire qu'en a essayée Madame de Lafayette rappelle plus d'une fois les mémoires de cette reine si aimable en son temps, qu'il ne faut pourtant pas croire toujours. Le perfide Varde et le fier Monsieur de Guiche sont bien des figures qui siéraient d'emblée à la cour de Henri II. Et à cette cour de Madame, il ne manquait pas même de chevaliers de Lorraine. Madame de Lafayette avait dans ce monde une sorte de rôle d'autorité et exerçait pour le ton une critique sage. 2 mois avant la malheureuse mort de Madame, Madame de Montmorency écrivait à Monsieur de Bussy en manière de plaisanterie, 1er mai 1670, guillemets, Madame de Lafayette, favorite de Madame, a eu la tête cassée par une corniche de cheminée qui n'a pas respecté une tête si brillante de la gloire que lui donnent les faveurs d'une si grande princesse. Avant ce malheur, on a vu une lettre d'elle qu'elle a donnée au public pour se moquer de ce qu'on appelle les mots à la mode et dont l'usage ne vaut rien. Je vous l'envoie. Fin des guillemets. Suit cette lettre qui est toute composée du jargon amphigourique dont elle voulait corriger le beau monde. C'est un amant jaloux qui a écrit à sa maîtresse. Boileau, en son genre, n'eût pas mieux fait. Madame de Lafayette, à un degré radouci, était un peu le Despréau de la politesse de cour. À la fin de cette même année 1670, parut Zaïde, le premier ouvrage véritable de Madame de Lafayette, car la princesse de Montpensier n'était pas un ouvrage et n'avait d'ailleurs été remarquée dans le temps que d'assez peu de personnes. Zaïde portait le nom de Segret, et ce ne fut pas une pure fiction transparente. Le public crut aisément que Segret était l'auteur. Bussy reçut le livre comme étant de Segret, se disposa à le lire avec grand plaisir, car Segret, disait-il, ne peut rien écrire qui ne soit joli. Après l'avoir lu, il le critique et le loue toujours dans la même persuasion. Depuis lors, il n'a pas manqué de personnes qui ont voulu maintenir à Segret l'honneur de la paternité, ou du moins une grande part. Adry, qui a donné une édition de la princesse de Clèves, 1807, en remettant et laissant la question dans le doute, semble incliner en faveur du poète bel esprit. Mais le digne Adry, qui fait autorité comme bibliographe, a l'esprit un peu esclave de la lettre. Segrais, pourtant, nous dit assez nettement, ce semble, dans les conversations et propos qu'on a recueillis de lui, guillemets, la princesse de Clèves et de Madame de Lafayette. Zaïde, qui a paru sous mon nom, est aussi d'elle. Il est vrai que j'y ai eu quelque part, mais seulement dans la disposition du roman, où les règles de l'art sont observées avec grande exactitude. Fin des guillemets. Il est vrai de plus qu'à un autre moment, Segrais dit, guillemets, après que ma Zaïde fut imprimée, Madame de Lafayette en fit relier un exemplaire avec du papier blanc entre chaque page, afin de la revoir tout de nouveau, et d'y faire des corrections, particulièrement sur le langage. Mais elle ne trouva rien à y corriger, même en plusieurs années, et je ne pense pas que l'on y puisse rien changer, même encore aujourd'hui. Fin des guillemets. Il est évident que Segrais, comme tant d'éditeurs de bonne foi, se laissait dire et rougissait un peu quand on lui parlait de sa Zaïde. La confusion de l'auteur à l'éditeur est chose facile et sensible. Au Moyen Âge, et même au XVIe siècle, une phrase de latin copiée ou citée faisait autant partie de l'amour-propre de l'auteur qu'une pensée propre. S'il s'agit d'un roman ou d'un poète qu'on a mis en circulation le premier, on est plus chatouilleux encore. Ces parrains-là ne haïssent pas le soupçon malin et ne le démentent qu'à demi. Même sans cela, à force d'entendre unir son nom à la louange ou à la critique de l'œuvre, on l'adopte plus étroitement. On m'a, s'il m'en souvient, tant jeté à la tête Ronsard que j'ai de la peine à ne pas dire « mon Ronsard ». On est flatté, d'ailleurs, d'avoir porté le premier une bonne nouvelle et même une mauvaise. Le bon Adry, faute d'y entendre malice, s'embarrasse donc bien gratuitement de ce mot de Segrais, « ma Zaïde ». Huet est assez formel à ce sujet, dans ses origines de Caen. Il est plus encore, dans son commentaire latin sur lui-même. Guillemets, des gens mal informés, y dit-il, ont pris pour une injure que j'aurais voulu causer à la renommée de Segrais ce que j'ai écrit dans les origines de Caen. Mais je puis attester le fait, sur la foi de mes propres yeux et d'après nombre de lettres de Madame de Lafayette elle-même, car elle m'envoyait chaque partie de cet ouvrage successivement, au fur et à mesure de la composition, et me les faisait lire et revoir. Fin des guillemets. Enfin, Madame de Lafayette disait souvent à Huet, qui avait mis en tête de Zaïde son traité de l'origine des romans, « Savez-vous que nous avons marié nos enfants ensemble ?» Il est vrai qu'après tout, le genre de Zaïde ne diffère pas si notablement de celui des nouvelles de Segrais, qu'on ait pu dans le temps prendre le change. Zaïde est encore dans l'ancien et pur genre romanesque, quoiqu'elle en soit le plus fin joyau. Et si la réforme y commence, c'est uniquement dans les détails et la suite du récit, dans la manière de dire, plutôt que dans la conception même. Zaïde tient en quelque sorte un milieu entre l'astrée et les romans de l'abbé Prévost, et fait la chaîne de l'une aux autres. Ce sont également des passions extraordinaires et subites, des ressemblances incroyables de visage, des méprises prolongées et pleines d'aventures, des résolutions formées sur un portrait ou un bracelet entrevu. Ces amants malheureux quittent la cour pour des déserts horribles où ils ne manquent de rien. Ils passent les après-dîners dans les bois, comptant aux rochers leurs martyrs, et ils rentrent dans les galeries de leurs maisons où se voient toutes sortes de peintures. Ils rencontrent à l'improviste, sur le bord de la mer, des princesses infortunées, étendues et comme sans vie, qui sortent du naufrage en habits magnifiques et qui ne rouvrent languissamment les yeux que pour leur donner de l'amour. Des naufrages, des déserts, des descentes par mer et des ravissements. C'est donc toujours, plus ou moins, l'ancien roman d'Héliodore, celui de Durfé, le genre romanesque espagnol, celui des nouvelles de Cervantes. La nouveauté particulière à Madame de Lafayette consiste dans l'extrême finesse d'analyse. Les sentiments tendres y sont démêlés dans toute leur subtilité et leur confusion. Cette jalousie d'Alphonse, qui parut si invraisemblablement aux contemporains, et que Segrais nous dit avoir été dépeinte sur le vrai, et en diminuant plutôt qu'en augmentant, est poursuivie avec dextérité et clarté dans les dernières nuances de son dérèglement et comme au fond de son labyrinthe. Là se fait sentir le mérite, là l'observation par endroits se retrouve. Un beau passage, et qui a pu être qualifié admirable par D'Alembert, et celui où les deux amants, qui avaient été séparés peu de mois auparavant, sans savoir la langue l'un de l'autre, se rencontrent inopinément et s'abordent en se parlant chacun dans la langue qui n'est pas la leur, et qu'ils ont apprise dans l'intervalle, et puis s'arrêtent tout à coup en rougissant comme d'un mutuel aveu. Pour moi, j'en aime des remarques de sentiment comme celle-ci, que Madame de Lafayette n'écrivait certainement pas sans un secret retour sur elle-même. Guillemet. Ah, don Gartier, vous aviez raison. Il n'y a de passion que celle qui nous frappe d'abord et qui nous surprenne. Les autres ne sont que des liaisons où nous portons volontairement notre cœur. Les véritables inclinations nous l'arrachent, malgré nous. Fin des guillemets. Madame de Lafayette ne connut pas, je pense, ces passions qui nous arrachent avec violence de nous-mêmes, et elle apporta volontairement son cœur. Lorsqu'elle fit choix de M. de La Rochefoucauld pour se lier avec lui, j'ai dit qu'elle devait avoir 32 ou 33 ans à peu près, et lui 52. Elle le voyait et le rencontrait depuis déjà longtemps sans doute, mais c'est de la liaison particulière que j'entends parler. On va voir par la lettre suivante, interdite jusqu'ici, note, résidu de Saint-Germain, paquet 4, numéro 6, bibliothèque du roi. J'ai déjà recommandé à M. Montmerquet ce paquet, qui lui convient si bien par une quantité de lettres de l'abbé de la Victoire, de la comtesse de Maure et de Madame de Sablé. Mademoiselle, dans « La princesse de Paphlagonie », traçant des portraits de ces deux dames, a dit « C'est de leur temps que l'écriture a été mise en usage. On n'écrivait que les contrats de mariage. De lettres, on n'en entendait pas parler. Eh bien, bon nombre des lettres de ces dames, devancières de Madame de Sévigné, sont là. Monsieur Cousin en a depuis tiré parti avec bonheur, et aussi, selon son habitude, avec fanfare. » Reprise. On va voir par la lettre suivante, interdite jusqu'ici, et qui est une des plus confidentielles qu'on puisse désirer, que vers le temps de la publication des Maximes, et lors de la première entrée du comte de Saint-Paul dans le monde, il était bruit de cette liaison de Madame de Lafayette et de M. de La Rochefoucauld comme d'une chose assez récemment établie. Or, la publication des Maximes et l'entrée du comte de Saint-Paul dans le monde, en la rapportant à l'âge de 16 ou 17 ans, concorde juste et donne l'année 1665 ou 1666. Madame de Lafayette écrit cette lettre à Madame de Sablé, ancienne amie de M. de La Rochefoucauld, la même qui eut tant de part à la confection des Maximes, et qui, depuis quelque temps, s'était tout à fait liée avec Port-Royal, par intention de réforme et peur de la mort, à ce qu'il semble, plutôt que par conversion bien entière. Guillemet. Ce lundi au soir, je ne pus hier répondre à votre billet parce que j'avais du monde, et je crois que je n'y répondrai pas aujourd'hui parce que je le trouve trop obligeant. Je suis honteuse des louanges que vous me donnez, et d'un autre côté, j'aime que vous ayez bonne opinion de moi, et je ne veux vous rien dire de contraire à ce que vous en pensez. Ainsi, je ne vous répondrai qu'en vous disant que M. le comte de Saint-Paul sort de Séan, et que nous avons parlé de vous une heure durant, comme vous savez que j'en sais parler. Nous avons aussi parlé d'un homme que je prends toujours la liberté de mettre en comparaison avec vous pour l'agrément de l'esprit. Je ne sais si la comparaison vous offense, mais quand elle vous offenserait dans la bouche d'un autre, elle est une grande louange dans la mienne, si tout ce qu'on dit est vrai. J'ai bien vu que M. le comte de Saint-Paul avait ouï parler de ces dits-là, et j'y suis un peu entrée avec lui. Mais j'ai peur qu'il en ait pris tout sérieusement ce que je lui en ai dit. Je vous conjure, la première fois que vous le verrez, de lui parler de vous-même de ces bruits-là. Cela viendra aisément à propos, car je lui ai donné les maximes, et il vous le dira sans doute. Mais je vous prie de lui en parler comme il faut, pour lui mettre dans la tête que ce n'est autre chose qu'une plaisanterie. Et je ne suis pas assez assurée de ce que vous en pensez pour répondre que vous direz bien, et je pense qu'il faudrait commencer par persuader l'ambassadeur. Néanmoins, il faut s'en fier à votre habileté. Elle est au-dessus des maximes ordinaires. Mais enfin, persuadez-le. Je hais, comme la mort, que les gens de son âge puissent croire que j'ai des galanteries. Il leur semble qu'on leur paraît 100 ans dès qu'on est plus vieille qu'eux. Ils sont tout propres à s'étonner qu'il soit encore question des gens. Et de plus, ils croiraient plus aisément ce qu'on lui dirait de M. de La Rochefoucauld que d'un autre. Enfin, je ne veux pas qu'il en pense rien, sinon qu'il est de mes amis, et je vous prie de n'oublier non plus de lui ôter cela de la tête, si tant est qu'il l'est, que j'ai oublié votre message. Cela n'est pas généreux de vous faire souvenir d'un service en vous en demandant un autre. En marge, je ne veux pas oublier de vous dire que j'ai trouvé terriblement de l'esprit au comte de Saint-Paul. Fin des guillemets. Pour ajouter à l'intérêt de cette lettre, qu'on veuille bien se rappeler la situation précise. M. de Saint-Paul, fils de Mme de Longueville, et probablement aussi de M. de La Rochefoucauld, venant voir Mme de Lafayette, qui passe pour l'objet d'une dernière passion tendre, et qui voudrait le voir détrompé, ou trompé là-dessus. Le « terriblement d'esprit » du jeune prince allait droit, je pense, au cœur de Mme de Longueville, à qui le post-scriptum, au moins, et le reste aussi, sans doute, fut bien vite montré. Ce mot charmant de la lettre, et que devraient méditer toutes les amours un peu tardives, guillemets, « je hais comme la mort que les gens de son âge puissent croire que j'ai des galanteries », fin des guillemets, répond exactement à cette pensée de la princesse de Clèves, guillemets, Madame de Clèves, qui était dans cet âge où l'on ne croit pas qu'une femme puisse être aimée quand elle a passé 25 ans, regardait avec un extrême étonnement l'attachement que le roi avait pour cette duchesse de Valentinois. Fin des guillemets. Cette idée-là, comme on voit, était familière à Madame de Lafayette. Elle craignait surtout de paraître inspirée ou sentir la passion à cet âge où d'autres l'affectent. Sa raison délicate devenait une dernière pudeur. Je tiens d'autant plus à ce que la liaison intime et déclarée de M. de La Rochefoucauld et d'elle ne commence qu'à cette époque qu'il me semble que l'influence sur lui de cette amie affectueuse est expressément contraire aux maximes, qu'elle les lui eût fait corriger et retrancher si elle l'avait environné avant comme depuis, et que le « La Rochefoucauld misanthrope », celui qui disait qu'il n'avait trouvé de l'amour que dans les romans, et que pour lui il n'en avait jamais éprouvé, n'est pas celui dont elle disait plus tard « Monsieur de La Rochefoucauld m'a donné de l'esprit, mais j'ai réformé son cœur ». Dans un petit billet de sa main, inédit, à Madame de Sablé, qui avait elle-même composé des maximes, je lis. Guillemets, vous me donneriez le plus grand chagrin du monde si vous ne me montriez pas vos maximes. Madame Duplessis m'a donné une curiosité étrange de les voir, et c'est justement parce qu'elles sont honnêtes et raisonnables que j'en ai envie, et qu'elles me persuaderont que toutes les personnes de bon sens ne sont pas si persuadées de la corruption générale que l'est M. de La Rochefoucauld. Fin des guillemets. C'est cette idée de corruption générale qu'elle s'attacha à combattre en M. de La Rochefoucauld et qu'elle rectifia. Le désir d'éclairer et d'adoucir ce noble esprit fut sans doute un appât de raison et de bienfaisance pour elle aux abords de la liaison étroite. L'ancien chevalier de la Fronde, devenu amer et goûteux, n'était pas au reste ce qu'on pourrait se figurer d'après son livre seul. Il avait peu étudié, nous dit Segret, mais son sens merveilleux et sa science du monde suppléaient à l'étude. Jeune, il avait donné dans tous les vices de son temps et s'en était retiré avec l'esprit plus sain que le corps, si l'on pouvait appeler saint quelque chose d'aussi chagriné. Cela n'empêchait en rien la douceur de son commerce et son agrément infini. Il était la bienséance parfaite, continue, et gagnait chaque jour à être vu de plus près. Homme de la conversation particulière, un ton de plus ne lui allait pas. S'il lui avait fallu parler devant 5 ou 6 personnes un peu solennellement, la force lui aurait manqué, et la harangue, qui était d'usage pour l'Académie française, l'en détourna. En juin 1672, quand, un soir, la mort de M. de Longueville, celle du chevalier de Marcillac, son petit-fils, et la blessure du prince de Marcillac, son fils, quand toute cette grêle tomba sur lui, nous dit Madame de Sévigné, il fut admirable à la fois de douleur et de fermeté. Guillemet. J'ai vu son cœur à découvert, ajoute-t-elle, en cette cruelle aventure. Il est au premier rang de ce que j'ai jamais vu de courage, de mérite, de tendresse et de raison. Fin des guillemets. À peu de distance de là, elle disait de lui encore qu'il était patriarche et sentait presque aussi bien qu'elle la tendresse maternelle. Voilà le La Rochefoucauld réel, et tel que Madame de Lafayette le réforma.